Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Clémence Olivier pour son zapping du lendemain spécial Loser et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial Winner. Notre invité, c'est l'écrivain Jean-Louis Chifflet pour son ouvrage savoureux, magasin pittoresque de la littérature française. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, des mix inédits de John Lennon, c'est Angèle Châtelier qui les a. Elle va nous les faire écouter. Puis un jeu vidéo très éducatif, c'est Clément Le Saffre qui va nous le faire découvrir. Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour Philippe, bonjour Bertrand, bonjour à tous.
Bienvenue parmi nous pour cette semaine pendant les vacances d'Evaroc au camping de la Bourboule. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour à tous.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Vous avez découvert votre nouveau programme préféré.
Mais oui Philippe, ça se passe le dimanche à 17h40 sur TFX. Vous prenez la maison France 5 ou M comme maison, vous ajoutez le juste prix, vous mélangez... Et vous obtenez, tadam, maison de rêve, quel est votre prix ?
Ils vont devoir s'affronter dans la compétition immobilière la plus difficile. Estimez le prix de maison d'exception dans toute la France pour devenir champion de l'estimation et se constituer la plus grosse cagnotte possible.
Après, bienvenue chez nous, bienvenue au camping, bienvenue en vacances et en attendant, bienvenue dans mon slip. Une énième émission qui met en scène des couples qui s'affrontent pour gagner de l'argent, me direz-vous ? Pas du tout. Maison de rêve, ce sont des couples qui s'affrontent pour gagner de l'argent en estimant des biens immobiliers de luxe. Ça n'a rien à voir. Ils sont tous passionnés de déco, peintres en bâtiment ou encore cuisinistes. Et parmi les couples cette semaine, Angélique et Clément, un duo très équilibré.
Il faut vraiment qu'on se répartisse les pièces.
Il faut vraiment se répartir les pièces et voici à quoi ressemble la répartition des tâches selon Clément.
Je fais cuisine et tout ce qui est terrain.
Moi je fais tout le reste. Ah d'accord, en fait je fais tout le boulot quoi.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. J'en fous pas une et tu fais tout le reste. Ok, super. Mais de tous les candidats, ma chouchoute, c'est Céline. Elle est à fond dans la compète mais elle a un petit souci. Parce qu'elle a du mal à gérer son volume vocal.
On est paré pour foncer.
Le jackpot, il est à 55 000 euros aujourd'hui et nous, on veut le gagner.
La mosaïque, c'est de la mosaïque et ancienne.
Il y a une cascade. Il y a une cascade.
Des bananiers, des oliviers, Laurent.
Dis donc, t'arrêtes de gueuler. Il est juste à côté, Laurent, il t'entend. Et quand elle ne crie pas, Céline s'extasie surtout. Elle passe les trois quarts du programme à balancer des « Ouh là là !»
Oh là 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 là.
Oh là là.
Mais je la comprends, parce que ce sont des demeures de luxe. Il y a très peu de lino et de tapis touff dans le programme. On est vraiment plus sur du parquet en chêne centenaire et du marbre, des tables en marbre, du sol en marbre, des pommeaux de douche en marbre, du luxe quoi. Mais dans ce programme, il n'y a pas que les maisons qui sont surprenantes, l'animateur aussi.
C'est un moment très important qui se joue maintenant. Céline et Laurent, nous allons découvrir si vous conservez votre titre de champion.
Il s'agit d'Appy, un robot assistant vocal. À votre place, je me méfierais, Philippe, parce qu'avant, c'était les chanteuses et les anciennes Miss France qui piquaient le taf des animateurs. Maintenant, ce sont les robots. Faites gaffe, à la vitesse où ça va, l'an prochain, ce sera un grippin intelligent qui présentera Culture Média à votre place.
Oh là là! J'allais lire, oh là 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 là!
Merci Bertrand Chemeroy. Le zapping du lendemain, c'est maintenant avec vous, Clémence Olivier. Le thème des programmes que vous avez retenu pour nous?
Eh bien, le thème, c'est perdre. Et sur Arte, ce que l'on perd, ce sont des milliards de dollars que le colonel Kadhafi avait transférés en Afrique du Sud peu de temps avant sa chute en 2011. Cet argent, il s'est ensuite volatilisé. Alors des hommes se sont mis en tête de le retrouver, comme ce marchand d'armes.
Les personnes avec qui je suis en contact m'ont déjà confirmé certaines choses, notamment la manière dont l'argent est entré dans le pays. D'après une lettre, il y aurait eu 179 vols. Mais toutes les informations sur ces vols ont été supprimées. Les pilotes impliqués dans cette affaire sont des militaires, ils ont peur de se faire tuer. Donc le problème, c'est qu'il y avait de l'argent libyen dans les bunkers de Watercloth, mais qu'il a été transféré ailleurs.
Où sont passés les billets et pourquoi Kadhafi les a envoyés en Afrique du Sud ? C'est une enquête qui est fouillée, que nous propose Arte. Une chasse au trésor complexe qui nous raconte les relations ambiguës entre Kadhafi et le parti de Mandela. Elle nous rappelle aussi qu'en attendant de retrouver le pactole, c'est le peuple libyen qui s'enfonce dans la misère. Mais les Libyens ne sont pas les seuls à perdre ce soir. Sur France 5, ce sont les femmes qui sont lésées. Dans le documentaire « Les femmes oubliées de la santé », on découvre qu'elles sont moins vite soignées que les hommes et que l'on a du mal à leur déceler certaines maladies comme le cancer du poumon. Pourquoi ? Car leurs symptômes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes, mais aussi parce qu'on ne les prend pas toujours au sérieux.
J'ai vu un premier généraliste qui était mon médecin référent qui m'a diagnostiqué une allergie. Un deuxième généraliste qui, elle, a pensé que ça venait d'un problème de sinusite, qui m'a soigné avec de l'homéopathie. Et un troisième généraliste spécialisé en acupuncture qui, lui, a eu un doute et donc m'a ordonné une radio des poumons.
Et ce documentaire fourmille de chiffres et de témoignages édifiants sur les conséquences de cette discrimination. Enfin, sur Canal+, dans le film La Grande Traversée, une femme, Alice, perd aussi. Et ce qui manque à cette écrivaine à succès campée par Meryl Streep, c'est l'inspiration. Pour tenter de reprendre le dessus, elle accepte de partir en croisière avec deux amis qu'elle n'a pas vus depuis la fac. Mais à bord du paquebot, son amie Roberta, elle, ne pense qu'à séduire les riches passagers.
Alors lui, c'est celui qui honnêtement se rapprocherait le plus d'un candidat potentiel. Murray Dix, fabricant de lacets de chaussures. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus glamour, mais je crois qu'il a du pognon. Alors j'ai besoin de toi pour savoir s'il a beaucoup de pognon et combien exactement. Si c'est de l'argent liquide, je veux son historique conjugal. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? S'il a fait de la tôle, parce que ce serait pas bon.
J'adore ces dialogues, mais ce film de Steven Soderbergh, inédit en France, vaut aussi pour les sujets qu'il aborde en profondeur, la création, l'amitié, et pour la prestation des actrices, Meryl Streep en tête. Alors pour pas vous perdre ce soir, je récapitule. À 22h25, on cherche les milliards de cataphys sur Arte, sur France 5, Femmes, les oubliés de la santé, c'est à 20h50, et La Grande Traversée, dès 21h05 sur Canal+.
Merci beaucoup Clémence Olivier, et merci Bertrand Chamorand. On vous retrouve demain dès 7h40 pour votre chronique. Dans la matinale de Mathieu Béliard. Dans un instant, sera l'écrivain Jean-Louis Chifflet, mais d'abord musique avec Clara Luciani.
Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Je ne suis qu'une imbécile. Allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine. Jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Louis Chifflet.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes éditeur, la maison Chifflet et compagnie, mais surtout auteur prolixe, plus de 70, peut-être 80 livres depuis Sky My Husband, Ciel mon mari. C'est en 85 qu'il s'était vendu à plus de 300 000 exemplaires. Je vais également citer les cahiers de vacances pour adultes, parce que c'est vous qui avez inventé ça. Le dictionnaire amoureux de l'humour dans la très belle collection de chez Plon, et également le dictionnaire amoureux de la langue française, pardon. Quasiment tous vos livres tournent autour de l'amour des mots et de l'humour et de la littérature ou de l'édition. Et là, vous publiez ce magazine pittoresque de la littérature française. Je vous cite un pêle-mêle littéraire où on va tout savoir sur les détails intimes croustillants des grands écrivains, par exemple.
Bon, on va tout savoir. Alors évidemment, croustillant, ça attire un petit peu le public. Il n'y aura quand même pas trop de choses.
Mais un exemple, qu'est-ce qu'on va apprendre, par exemple?
Eh bien, on va par exemple apprendre que un document assez exceptionnel, assez exceptionnel sur la mort de Proust. Comment ça s'est passé pendant la nuit, sa dernière nuit. On va apprendre aussi que j'ai me suis procuré un contrat de Madame Bovary entre Flaubert et les éditions Lévy. À l'époque, c'était pas les éditions Calmann-Lévy. Il va y avoir surtout aussi un certain nombre de scoops, dont un dont je suis très fier, que j'ai découvert, un discours de Victor Hugo en 1846 devant ses pairs, où on peut dire qu'il est vraiment l'ancêtre de l'écologie, parce qu'il est, à ce moment-là, il fait un texte magnifique en disant que les falaises françaises sont en train de s'écrouler, etc. Donc, c'est un livre drôle, il y a beaucoup de gadgets, il y a beaucoup... Alors, évidemment, à quel âge ils ont écrit, quels étaient leurs tics, leurs maladies, leurs drogues, leurs sports...
Attendez, je vais commencer par le commencement, les débuts difficiles. Je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui voudraient écrire un livre. Ah. Donc je l'apprends grâce à vous. Samuel Beckett, En attendant Godot en 52, il a vendu 125 exemplaires la première année. Cioran, tout le monde en parle, le précis de décomposition, 20 exemplaires vendus la première année. Gide, Les nourritures terrestres qu'on étudie tous, que tout le monde a ou presque chez soi, 300 exemplaires vendus en 16 ans seulement. Et L'écume des jours, Vian, c'est un immense classique, L'écume des jours.
Oui, mais maintenant, il vend des centaines de milliers d'exemplaires.
Il en a vendu 3000 en 15 ans.
Exactement, les débuts sont très difficiles et certains écrivains qui nous écoutent sont bien placés pour le savoir. Ouais. Mais justement, ensuite, dans la même veine, Je demande à un certain nombre d'écrivains comment il faut écrire, etc. Et pourquoi ils ont écrit. Alors, moi, j'aime beaucoup la réponse de Blaise Cendrard. Pourquoi? Il répond parce que.
Ouais. Par contre, ça, c'est pas vous qui lui avez demandé. Non. Vous n'avez pas croisé de votre vivant, quand même, Blaise
Cendrard.
Non,
vous savez, je suis très vieux, quand même.
Ouais. Mais comment vous avez travaillé? Parce qu'il y a des notes de dingue.
J'ai travaillé. Oui, c'est dingue.
Ça
c'est
fait
dingue.
Depuis combien de temps vous recensez? Alors,
ça fait des années. Il y a un certain nombre de livres qui font partie que j'avais publié, dont j'ai pris des extraits. Je me suis beaucoup inspiré d'écrivains, en particulier Jérôme Garcin, qui a écrit des textes formidables sur les écrivains, etc. Par exemple, quand je leur demande, j'ai trouvé un truc formidable, Léoto, qui était quand même pas quelqu'un de très reliable, comme on dit, et il donne des conseils aux écrivains, et je trouve ça formidable, il dit, surtout, enlevez les mais, les pourtant, les en effet, et les cependant. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont beaucoup amusé.
Et des bourdes que j'adore, Balzac écrit, la femme de chambre lui cria deux mots à voix basse, j'aime beaucoup, et dans le livre La Bourse, il est 11h, répéta le personnage muet, donc même Balzac peut faire ça. Il y a tous les auteurs qui se sont fait aider, je savais pas qu'il y en avait autant, je savais pour Dumas.
Alors j'ai appelé cette rubrique boire ou écrire, il faut choisir. La meilleure, à mon avis, c'est Alexandre Dumas qui dit dans un de ses textes, ah, dit Don Manuel en portugais, c'est quand même formidable.
Ah, c'est un mot portugais aussi.
Oui, bien sûr.
Il y a toutes les addictions, le tabac, le hashish, l'opium, il y a une entrée héroïne et cocaïne avec seulement Françoise Sagan. Il n'y a pas d'entrée cocaïne toute seule. Il n'y a personne de vivant, vous avez fait exprès?
Oui,
parce qu'on a des noms d'auteurs.
On a des noms, justement, on m'a fait le reproche. Il y a très peu d'auteurs encore vivants. Ça sera peut-être...
Non, parce qu'il y en a qui ne le cachent pas pour la cocaïne.
Oui, mais je n'ai pas envie de casser. On a les noms, vous les avez, on a les mêmes. Donc on verra ce qu'on fait.
Il y a aussi tous les auteurs qui sont restés des vieux garçons. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Et alors, page 280, on parle des trolls sur les réseaux sociaux. Vous avez fait la recension des vacheries que les écrivains peuvent dire les uns pour les autres. C'est juste d'une violence. Baudelaire, au sujet de George Sand, Sand est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Je ne puis m'empêcher de penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Ionesco a dit « Sartre est le roi des cons ». J'aurais jamais pensé ça. Prévert, au sujet de Monterland, un bas du cul qui se prend pour un grand d'Espagne. Oui. C'était d'une violence inouïe.
C'est d'une violence inouïe. J'ai classé ça. Alors, il y a les contes et puis ensuite, il y a les très très contes. Dans les très très contes, il y a Jean-Jacques Brochier, qui était le patron à l'époque des cahiers littéraires, et qui a dit de Camus, c'est un écrivain pour classe terminale. Il fallait quand même le faire. Rinaldi, qui était à l'Express, qui était très très méchant, il disait que Le Clésio, qui va très bien, mais il dit que Le Clésio écrit comme un bulletin météo. Et puis, il y a les méchants bien connus à l'époque, de Léon Blois, par exemple, qui dit de Rimbaud, c'était un gamin qui pisse contre l'Himalaya. Voilà. Donc, c'est quand même très, 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 très dur.
Il y a de la bienveillance aussi dans ce livre, parce que de la bienveillance, oui, on va en entendre. Il y a un portrait, c'est le portrait inattendu de Jean-Loup Chifflet. C'est Hélène Manarino qui arrive maintenant dans Culture Média. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Loup Chifflet, magasin pittoresque de la littérature française, ça vient de sortir chez Plon, j'ai pas encore prononcé le mot, mais c'est comme des petits miscellanés, plein d'informations sur les écrivains, les littérateurs, et plein d'informations sur Jean-Loup Chifflet. C'est avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le portrait inattendu.
Bonjour Jean-Loup Chifflet, bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Loulou, surnom de l'enfance, Papou, John, John Wolf Wills, vos surnoms. Vous êtes un amoureux des mots. Vous écrivez des révélations sur nos grands écrivains. Il est temps de révéler les anecdotes sur un autre grand écrivain. Vous, eh bien oui, sinon ce n'est pas juste. Vous avez déclaré « Le plus de la langue française, ce sont ses curiosités ». Alors soyons curieux, je vous propose les plus de Monsieur Chifflet. Enfant exigeant, vous ne supportiez pas les maillots de bain en laine, surtout quand ils étaient mouillés. Pareil pour les bonnets. Vous aviez l'habitude de retirer le vôtre en cachette sur le chemin de l'école. Alors malheureusement, cela ne restait pas confidentiel. La crémière le répétait à votre maman. Votre plus grand complice petit, votre nounou, Marie, mais il y avait aussi Anna qui vous préparait avec amour des gratins de cardon à la moelle ou encore des aubergines.
Wow. Exact. J'ai faim moi maintenant.
Moi aussi. Un si gentil petit garçon, c'est ce qui peut vous définir. Et c'est d'ailleurs le titre de votre livre autobiographique. Et pourtant, il y en a encore des révélations. Comme ce jour, vous avez apporté un pigeon dans votre cartable
non,
en classe.
Mort ? Mais c'est vrai. Mais où est-ce qu'elle est allée chercher tout ça ?
Ah, c'est Hélène Manarino.
C'était au cours Pascal à Lyon, parce que j'étais insupportable.
Mais quelle horreur, un pigeon mort ?
Non, pas du tout. Il volait.
Vous êtes allé en classe avec un pigeon vivant.
C'est ça.
Donc dans les deux cas, je me dis que ce type est dingue.
Je confirme.
Hélène. Vous échiez les cours. Au lycée, vous préfériez organiser des grandes fêtes avec vos amis ou réaliser quelques canulars téléphoniques. Votre priorité, Jean-Loup Chifflet, que vous n'avez jamais caché, faire rire vos amis, et ça passait aussi par quelques imitations. Rieur, blagueur, bosseur, votre passion pour la lecture et l'écriture aussi pouvait se voir dans vos yeux. Et pourtant, vos yeux, vous ne les aimiez pas. Vous avez convaincu un opticien de vous prescrire des lunettes pour vous cacher derrière vos verres
fumés.
C'est pas
vrai. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Dingue. Vous aviez quel âge à cette époque ?
J'avais 15 ans.
Incroyable.
Et j'ai convaincu un opticien, je me souviens, à Rion, où j'étais pensionnaire. Et depuis, je suis obligé de porter des lunettes à vie.
À cause de ce gars.
Les secrets, les cachettes sont vraiment partout. Mais continuons notre cabinet de curiosité, celui d'aujourd'hui. Vous dites souvent, je suis une tombe, mais vous avez tendance à répéter les secrets. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir aujourd'hui. Commençons par votre évidence, celle que tout le monde voit, votre famille dont vous êtes si fière, vos enfants, papa poule, un peu inquiet parfois, mais surtout drôle, avec vos petits-enfants. Des petits-enfants gâtés, grâce à vos cadeaux assez originaux que vous ramiez de vos voyages. Une famille avec qui vous partagez des vidéos drôles sur les animaux, dans votre groupe WhatsApp, et la réponse systématique de vos petits-enfants « Oh, papou !» Voilà, j'espère que l'imitation est bonne.
Ouais,
vous aimez aller chiner aux puces avec eux, c'est votre côté curieux, rien d'étonnant aussi à ce que vous soyez fan des gadgets en tout genre, comme un épluche-pomme, un réveil matin qui aboie, des gadgets que vous aimez offrir. Ça peut surprendre alors que vous détestez les surprises. Votre hantise, rentrez chez vous avec tous vos amis cachés dans le placard en criant « Joyeux anniversaire Jean-Loup !»
Voilà.
Jean-Loup Chifflet, celles et ceux qui peuvent profiter de votre bonne humeur, ce sont les gens qui vous appellent et à qui vous ne répondez pas, puisque vous êtes le spécialiste des messages d'accueil de répondeurs.
Oui.
Ah oui, c'est-à-dire.
Et ils changent souvent.
C'est-à-dire,
eh ben, par exemple, en ce moment, si tu m'appelles sur mon répondeur, la réponse c'est attention, je ne prends que les appels masqués. Ça me paraît d'une logique implacable.
Et pourtant, vous perdez souvent votre téléphone à tel point que votre numéro est inscrit partout pour que vous puissiez vous appeler. Dans votre boîte à secrets, il y a aussi vos habitudes, celle de préparer la machine à café et de programmer votre café la veille. Vous achetez toute la presse hebdo et quotidienne chez votre marchand de journaux tous les jours. C'est le même que Philippe Vandel, d'ailleurs.
Non.
Et oui.
Evelyne, si tu nous entends.
On vous embrasse, Evelyne. Vous annoncez que vous êtes au régime systématiquement quand vous arrivez en vacances. Vous avez la phobie d'être en retard et de louper le train, surtout le train des auteurs pour la foire du livre à Brive. Vous ne cuisinez pas beaucoup, à tel point que quand vous avez essayé de faire des pâtes, vous n'avez pas mis d'eau.
Non.
Et pourtant, votre plat préféré, le poulet aux nouilles ou aux pâtes, les deux fonctionnent. Vous aimez bricoler avec du sparadrap, jardiner avec des ciseaux pour les ongles. Vous avez essayé le roller, la corde à sauter, mais vous avez vite abandonné. Alors Jean-Loup Chifflet, là où vous êtes heureux, ce sont les lieux de votre jeunesse, comme le Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz, ou encore Saint-Symphorien en Ardèche, mais aussi votre bureau, en désordre certes, mais avec l'essentiel, papier, stylo plume, photos anciennes et récentes de votre famille, lettres de vos admiratrices. Jean-Loup Chifflet, bousculer la langue française, la manier avec élégance et avec humour, c'est ce que vous aimez faire, et c'est ce qui fait que grâce à vous, elle est encore plus belle.
Merci Hélène Manarino.
Merci Hélène. J'essuie quelques larmes furtives avec le masque. Non mais c'est formidable. Elle travaille au Quai d'Orsay, comment elle sait tout ça?
Déjà elle travaille beaucoup beaucoup, elle est très bien informée.
Elle est très très bien informée, il faudra qu'on se voit tout à l'heure.
Avec plaisir.
Vous avez une idée de livre à lui faire écrire?
Oui.
Pardon? Vous avez une idée de livre à lui faire faire?
Oui, 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 absolument. Ça, voilà. Ça y est, j'ai déjà deux idées.
On en parle après.
Certain. Merci beaucoup Hélène Manarino.
Merci, à demain.
Avec plaisir.
Culture Média
à demain.
Continue, on va parler de musique, on va parler de jeux vidéo, on va parler de littérature. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Loup Chifflet, magasin pittoresque de la littérature française, c'est chez Plon, on apprend mille choses sur les écrivains, sur les auteurs, sur les phrases. Par exemple, grâce à vous, moi je ne connaissais pas, on a retrouvé l'origine de citations très connues. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Vous savez d'où ça vient, Angèle Châtelier? Et bien, c'est une citation de Voltaire, je ne savais pas, alors que tout le monde dit ça. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est de qui? Jean-Loup Chifflet.
Le cœur a sa raison de
gagner.
Ouais,
bah, bien sûr.
Gagner, disons, c'est un blind test de citation.
Oui, oui, oui.
Qui veut noyer son chien l'accuse de rage.
Qui ça, veut noyer son chien l'accuse de rage. C'est pas Florian, non?
C'est... Non, c'est Voltaire. Alors, Voltaire, c'est dans votre livre, mais il y en a tellement.
Il y en a
je
tellement.
Je peux pas vous en vouloir de pas connaître
pages.
Par cœur votre livre, c'est impossible. Non, et dans chaque page, il y a 10 entrées. Mais, donc, il faut connaître 1000 entrées comme ça. Et alors,
tout finit par des chansons.
Je vais en parler après. Je veux dire pourquoi. Parce qu'il y a celle-ci dont j'ignorais l'existence. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Oui. C'est une fable de Florian. Et moi, je ne sais pas qui était
c'était
Florian.
C'était un poète du 19e. C'est vrai que Florian est assez présent dans ce bouquin parce qu'il a imaginé des citations assez extraordinaires et personne ne savait effectivement que les vaches seraient bien gardées par Florian, c'est
et
vrai.
Et la plus formidable que tout le monde dit, c'est « Pour vivre heureux, vivons cachés
voilà. ».
C'est de ce fameux Florian. Alors, vous l'avez dit, tout finit par des chansons, c'est de qui, vous le savez ou pas?
Pas du tout.
C'est de Beaumarchais, Beaumarchais qui était l'inventeur des droits d'auteur.
Oui, exact.
Avant Beaumarchais, il n'y avait pas de droits d'auteur, c'est lui qui a inventé ça. Avant, les écrivains, vous m'arrêtez si je me trompe, écrivaient des pièces, donnaient la pièce, étaient payés pour ça. Et après, si la pièce se jouait 10 ans, ils ne touchaient plus un centime. Et donc là, malheureusement, la personne dont on a parlé, elle a fait des chansons. Mais elle ne touche plus de droits d'auteur.
Non, parce que
c'est sa veuve. C'est la veuve qui est peut-être une des personnes les plus honnies au monde. Yoko Ono, vous avez vu l'enchaînement.
Ah,
on va
oui,
parler
formidable.
De John Lennon.
Oui.
Avec la réédition, vous allez nous en parler, Angèle Châtelier. Je vous salue maintenant comme il se doit. Vous avez parlé de la réédition d'un grand album aujourd'hui.
Oui, est-ce que vous vous souvenez, Philippe, de ce que vous faisiez le 11 décembre 1970?
Oh,
c'est précis. Hein.
J'avais 8 ans, je devais être au CM1.
Oui, voilà, ça doit être ça.
Voilà.
Et bien, John Lennon.
Donc moi, j'étais né.
Oui, vous étiez né. John Lennon, lui, il sortait son premier album studio. Plastic Ono Band. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. So late.
Plastic Ono Band, Ono comme Yoko Ono, la veuve dont je parlais.
Exactement. Alors dans quelques jours, Philippe, vous pourrez vous procurer chez tous les meilleurs disquaires une réédition de cet album avec pas moins de 87 chansons.
Attendez,
inédites. 87 chansons inédites.
Mais c'est un coffret, c'est quoi ?
Alors calmez-vous, parce que ce ne sont pas des nouveaux titres non plus, hein, comme souvent dans les rééditions, ce sont des mix, des remixes de chansons de l'album, des démos jamais exhumées, des sessions d'enregistrement. Bref, ça peut paraître être quelque chose pour les puristes ou pour les gigafans d'un artiste, mais en réalité, ça permet toujours de mieux comprendre un album, sa genèse et finalement comment l'artiste en est arrivé à ce résultat.
Oui, mais ça nous permet de nous replonger dans cet album.
Pour nous, aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des plus beaux et des plus importants de l'histoire de John Lennon, de la musique, même plus globalement, un album dans lequel John Lennon se livre avec une intensité déconcertante. C'est si beau.
Vous venez de faire une petite Madeleine de Proust, tout le monde s'en fout, mais j'avais ce 45 tours quand j'étais encore en primaire.
Bah voilà, c'est dit.
Dingue.
Alors là, il dit dans cette chanson de John Lennon, « Mère, tu m'as eu, mais je ne t'ai jamais eu. Je te voulais, tu ne voulais pas de moi. Alors je dois juste te dire au revoir. » L'intégralité de cet album a pour thématique l'enfance de John Lennon et ses traumatismes. Sa relation avec sa mère en fait partie. Ses parents se sont séparés alors qu'il n'avait que 5 ans, puis il a fini par être confié à sa sœur, Mimi. Mais John Lennon a perdu sa mère, percutée par une voiture quand il avait 18 ans. Alors cet album est brut, hein, né d'une thérapie que John Lennon et son épouse, vous le disiez, Yoko Ono, venaient alors de commencer. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me.
Et il évoque aussi les Beatles dans cet album ?
Oui, rien que ce titre, Philippe, Look At Me a été écrit par John Lennon alors qu'il était en Inde avec les Beatles en 1968. Mais il faut le savoir, cet album est sorti seulement quelques mois après la séparation officielle des Beatles, même si Ringo Starr est à la batterie. Il y a une chanson avec une phrase très acerbe. John Lennon, à l'époque, semble ne plus croire en rien, dit-il, ni en la Bible, ni en Elvis Presley, ni en Kennedy, et encore moins en les Beatles. Écoutez. Just believe in me. Mais alors dans cet album, aussi intime soit-il, aussi cru parfois, il y a tout de même des notes d'espoir. On va écouter la chanson Hold On, qui est quand même un peu plus optimiste que tout le reste.
Qu'on va écouter en entier tout à l'heure, Angèle Châtelier. Ça vous parle les Beatles, Jean-Louis Chifflet ? Vous étiez fan total ?
Ça me parle, mais bien sûr, vu mon grand âge.
Non, il y a des gens qui sont passés à côté, qui n'aimaient pas, qui étaient plutôt Stones. Il y a des gens qui étaient...
J'en connais des Stones, enfin c'est autre chose.
Ouais.
Mais... Non, John Lennon, en partie, c'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais chez Hachette, d'aller très souvent à New York, et je ne pouvais pas m'empêcher chaque fois d'aller devant le Dakota Building.
Là où il habitait
où il a été assassiné. Surtout, c'est ça, il y a une plaque à côté de Central Park, et c'est très très émouvant de, chaque fois que je vais à New York, quand je suis en Central Park, je vais faire un petit pèlerinage, parce que je trouvais que cette histoire était très émouvante. Je me souviens, il a été assassiné en...
C'est Angèle qui doit savoir.
Oui, alors là, vous me prenez au dépourvu. J'ai plus la date.
Mais vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Voilà, en c'est 80. Le Dakota Building. Voilà.
Et on ne se rend pas compte de, à l'époque, et je dis ça pour Clément Le Saff, qui a déjà un t-shirt des Rolling Stones, It's Only Rock'n'Roll. Ce n'était pas prévu du tout. Mais c'était une immense star à un point qu'on ne peut pas imaginer. On disait qu'ils étaient plus célèbres que Jésus-Christ, les Beatles, au moment de cet album.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on écoute comme, comme titre?
Eh bien, on va écouter cette chanson optimiste, Hold On, hein, qui nous invite un peu à penser le présent de manière optimiste, et quand c'est John Lennon qui nous le dit, on a envie d'y croire. Vous êtes bien sur Europe 1, voici donc Hold On de John Lennon.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Hold on, John. John, hold on. It's gonna be alright. You're gonna win the fight. Yoko, hold on, it's gonna be alright. You're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on.
C'était John Lennon sur Europe 1, tiré de son premier album solo. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre, qui va nous présenter un jeu vidéo. Oui, mais un jeu vidéo éducatif. Oui, mais un jeu vidéo éducatif made in France.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Louis Chifflet, qui publie ce magazine pittoresque de la littérature française, une sorte de miscellanée, c'est chez Plomb. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Avec vous, on parlait de jeux vidéo. Vous avez 4 petits-enfants, Jean-Louis Chifflet.
J'en ai 4, ouais. De 20, 16 et 2 fois 14.
Ils jouent aux jeux vidéo?
Hélas.
Ah ouais, ils jouent à quoi, vous le savez?
Bah écoutez, non, je ne sais absolument pas, parce que je suis assez contre. Je vois des espèces de choses un petit peu bizarres qui sont sur leur téléphone. C'est pas tellement le jeu vidéo que, mais c'est surtout le fait que ça ne remplace pas la lecture.
Alors vous allez voir, parce que là, ce sont des jeux vidéo éducatifs dont on va parler avec vous, Clément Le Saffre.
Oui, histoire de changer un petit peu, justement, en cette période de vacances et d'école à la maison. Bah, c'est une bonne alternative aux cahiers et aux livres de révision, histoire de ne pas toujours faire les mêmes exercices. Ce jeu, c'est Powers, avec un Z à la fin. C'est un jeu français, lancé en février dernier pour les 6-12 ans à peu près. Hein. Bon, ça peut commencer à 5, ça peut aller jusqu'à 13. Il y a déjà 8000 enfants qui y jouent, c'est pas mal. Powers, c'est un peu le Adibou moderne, hein, pour ceux qui ont la référence. Adibou, c'était... la référence des jeux vidéo éducatifs dans les années 90-2000. Un jeu français aussi avec un personnage avec une casquette et des grandes oreilles. On faisait des petits exercices en s'amusant dans son village. Eh bien, le créateur de Power s'est inspiré d'Adibou. Il s'est dit, tiens, il n'y a rien qui a été fait depuis 20 ans, donc on va changer ça. Et il a donc créé Powers. Et c'est donc un jeu vidéo dans lequel on apprend des choses et pas un jeu éducatif dans lequel on s'amuse, la nuance est importante.
Alors comment ça se présente, Clément ?
En fait, c'est un jeu de rôle avec une ambiance un peu fantasy. On incarne un enfant dans un village médiéval. Dans ce village, il y a des habitants qui nous donnent des missions. Parfois, ce sont des petits exercices et parfois de vraies aventures avec des dragons et des magiciens.
J'ai une mission à te confier. Tu trouveras dans ce colis un artefact. Ce dernier contient la formule d'activation d'un téléporteur. Il permet de se rendre dans l'immense désert oublié.
Bienvenue, enfant d'Alpha. La cité des géants t'attend.
Ah, vous l'entendez, c'est un jeu qui est finalement presque épique, mais oui. La différence avec les jeux vidéo classiques, c'est qu'on apprend des choses en permanence. Français, maths, langues étrangères, environnement, c'est très vaste et c'est cet équilibre entre jeu et éducation qui fait que Powers n'est pas juste un cahier de vacances 2.0 un peu ennuyant. Emmanuel Freund est le créateur du jeu.
Pour que ça marche, il faut que ça soit concurrent à tous les jeux vidéo qui existent. Il faut que l'enfant puisse se dire « Ah là, je me fais pas avoir ». Là, c'est pas du travail. C'est un jeu et j'ai plaisir à y aller. Et de l'autre côté, il faut que les parents qui regardent ça puissent se dire « C'est clairement pas un jeu. Là, il apprend enfin des choses. »
Donc, c'est un jeu, mais il y a quand même des exercices à faire.
Oui, mais c'est toujours ludique. Hein. Le hall des épreuves, par exemple, c'est l'un des principaux exercices. C'est une course d'obstacles appliquée aux mathématiques. Alors, je vais essayer de vous décrire. On court dans un couloir avec des portes. Il y a une addition à résoudre en même temps et il faut trouver le bon résultat qui correspond au bon chiffre sur la bonne porte. Si vous avez bon, vous passez la porte. Sinon, vous vous emplâtrez dans la mauvaise porte et vous perdez une vie. Mais parfois, l'apprentissage est plus subtil que ça dans Powers. Emmanuel Freund à nouveau.
Au début, effectivement, le but, c'est de faire que le monde plaise et d'éveiller à plein de matières. Donc, ils vont, dès les premières minutes en fait, du jeu, tu vas voir des gens qui te parlent dans des langues différentes. Et ils ne disent pas grand-chose. Hein. Ils disent bonjour, au revoir en allemand, en russe, en italien. Mais déjà, tu vas commencer à trouver des mots de vocabulaire riches. Tu vas chercher un peu comme quand tu collectionnais les cartes Panini de joueurs de foot. Là, c'est pareil, sauf que tu collectionnes les cartes de mots de vocabulaire. Donc, tu vas apprendre ce que c'est qu'une pépinière et tu vas devoir chercher sa définition. Tu vas apprendre ce que c'est qu'un piton rocheux. Enfin, plein de mots comme ça, assez intéressants. Et au fur et à mesure des chapitres, puisqu'on va livrer, on va sortir un nouveau chapitre de façon régulière, et bien, le jeu va s'étendre et ces domaines vont s'approfondir, en fait.
Et on entend des enfants derrière, vous allez tourner dans une école ?
C'est les siens, c'est ceux d'Emmanuel Freund, le fondateur. Télétravail oblige, ces enfants sont les premiers testeurs du jeu. Alors, pour tout ce qui a trait justement à l'éducation dans le jeu, les équipes de Power se sont entourées de spécialistes de l'éducation. Il y a un board pédagogique, donc c'est vraiment quelque chose d'encadré. Elles travaillent aussi avec Hachette et Bayard, les deux grands éditeurs de manuels scolaires. Ça ne remplace évidemment pas l'école, bien sûr, mais c'est un bon complément. Et pour l'avoir moi-même testé avec des enfants, je peux vous dire que Powers fait vraiment son petit effet. Ils se prennent littéralement au jeu et les parents finalement se prennent aussi au jeu, c'est-à-dire qu'ils regardent les enfants jouer, il y a une interaction. Moi j'étais très surpris et je trouvais ça très amusant.
C'est formidable. Redites, c'est de quel âge à quel âge?
Alors c'est à peu près de 6 à 12 ans. Les programmes scolaires en tout cas du jeu sont adaptés aux 6-12 ans. Ouais, le jeu il est disponible sur PC,
c'est ce que j'allais vous demander,
et sur Mac pour l'instant. Il sera bientôt disponible sur tablette, qui sera encore plus pratique pour les enfants.
Et combien ça coûte?
Et c'est là que c'est très original en fait. C'est un abonnement mensuel, donc on paye tous les mois pour le jeu, mais l'originalité c'est que le prix est libre. On choisit ce qu'on paye de 0, donc ça peut être totalement gratuit si vous ne voulez pas payer, jusqu'à 10€ par mois. Donc si ça vous plaît vraiment, mettez des sous. C'est une entreprise française qui s'est lancée. Il y a 40 personnes aujourd'hui qui travaillent là-bas. C'est un beau projet qui mérite d'être soutenu.
Jean-Louis Chifflet, ça vous a réconcilié avec le jeu vidéo, ça?
Oui, parce que j'ai entendu plusieurs fois le mot scolaire, donc ça me rassure. Donc je vais en parler à mes petits-enfants.
Ils sont peut-être, ils ont 14 ans, ils ont peut-être passé l'âge quand même.
Bien sûr qu'ils sont passés l'âge.
Moi, j'y ai joué à 27 ans, je me suis amusé.
C'est vrai, vous avez appris des choses?
J'ai appris des choses. J'ai appris à dire bonjour en russe. Voilà, je ne parle pas du tout le russe.
C'est formidable.
D'accord, merci beaucoup Clément Le Saffre. Dans un instant, suite et fin de Culture Média, toujours en compagnie de Jean-Louis Chifflet. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Magasin pittoresque de la littérature française, c'est le dernier ouvrage de Jean-Louis Chifflet. C'est une somme, c'est écrit tout petit, il y a plein d'informations qui partent dans tous les sens. Vous avez des préférences?
Oui, j'ai des préférences, j'en ai beaucoup. Il y en a une en particulier qui m'a beaucoup, je me suis renseigné un petit peu à droite et à gauche, j'ai intitulé ça « Quelques valses hésitations ». Ce sont des livres qui ont changé de titre au dernier moment. Par exemple, Apollinaire, on connaît tous Alcool, mais ça devait s'appeler Eau de vie. Les Chouans, ça devait s'appeler Le Gars. Et alors, le mieux, c'est Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, qui a hésité parce qu'il voulait l'intituler Les Lesbiennes.
Ah oui.
Mais ma préférée, je crois que c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Marcel Proust voulait l'appeler Les Colombes poignardées. Et c'est devenu À l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Faut d'ailleurs changer tout le temps d'avis,
en plus. Je trouve ça très, très intéressant. Tout ça pour dire que c'est un livre qui est peut-être drôle, mais qui est aussi archipédagogique. Alors, dans mes préférés, il y a des trucs un peu... Je peux en dire un?
Allez-y, bien sûr.
Par exemple, Pierre Benoît, c'était un écrivain qui est mort en 62, qui n'était pas vraiment de gauche, mais qui était sur la côte basque, un endroit que je connais bien, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et alors, Pierre Benoît, il avait un des tics. Il a eu 42 il avait 42 auteuses, enfin non, écrit, enfin, il avait...
Les 42 personnes qui l'aidaient à écrire ?
Non, non, 42 personnes, c'était toujours des femmes qui commençaient par un A.
Ah, dans les personnages.
Tous ces livres,
ah,
alors
oui,
il existe, voilà, excuse-moi.
Ça y est.
Alors A, Astrid, etc., etc. Ensuite, tous ces livres devaient avoir 318 pages. La première scène d'amour, s'il y en avait une... On pourrait dire le patin, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était page 100.
Ouais.
Et il fallait toujours que dans ces livres, il y ait une allusion à Gambetta et une phrase de Chateaubriand qui était cachée dans son bouquin. Je trouve ça assez, assez marrant.
On apprend plein de choses. Il y a de la petite histoire, il y a de la grande histoire. On apprend que vous donnez la liste des écrivains résistants. Ça va très vite, il y en a quatre. Francis Bonge, Robert Desnos, René Char et Albert Camus. Et quand on tourne la page...
Et Francis Bonge.
Oui, je l'ai dit, j'ai commencé par lui, Francis Ponge. Mais le plus intéressant, c'est quand on tourne la page, on est page 268, il y a hélas la liste de tous ceux qui n'ont pas résisté, et là, ils sont beaucoup plus nombreux.
Il y en a qui sont très connus, parce que Robert Brasillach, par exemple, on connaît la fin, la suite. Céline, c'est pas un scoop. Jacques Chardon non plus.
Écrivain préféré de Mitterrand.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il avait collaboré.
Brieux, moi, ce que je ne sais pas, Giono, je ne savais pas.
Alors voilà, ça, c'est une surprise, effectivement. Marcel Jouandeau, Charles Maurras, c'est pas un scoop. Monterland, il a pas, il a un petit peu. Hein, voilà.
Je savais pas, moi,
et
ça.
Et Paul Morand. Et puis, je raconte la fin de Brasillach. Un certain nombre d'auteurs ont essayé de le sauver au dernier moment, dont Camus. Et voilà.
Il y a des trouvailles formidables. Vous aviez fait des livres sur les nuances entre les mots, les nouilles ou les pâtes. Hélène Manarino en parlait, le porc ou le cochon, la différence, le cyclone, la tornade, la parodie ou le pastiche, le second ou le deuxième, la femme ou l'épouse. C'est quoi la différence entre la femme et l'épouse ?
Ben, la femme et l'épouse, ben, la femme, on dit ma femme, c'est, on n'est pas forcément marié avec ma femme.
Alors que l'épouse, on est obligé d'être marié.
Alors que l'épouse, on est obligé d'être marié. Ça, c'est des livres qui ont eu pas mal de succès à l'époque. En particulier Nouille ou pâte, qui a été un best-seller.
Vous arrêtez l'édition ou vous continuez votre métier d'éditeur?
Alors, mon métier d'éditeur, je le continue, puisque deux grandes maisons, en particulier Plon et Bouquin, m'ont demandé d'être directeur de collection.
Formidable.
Alors, en ce moment, je m'occupe beaucoup des dictionnaires amoureux. Et mon dernier, j'en suis très fier, mon dernier succès, c'est François Morel, qui a écrit le dictionnaire amoureux de l'inutile. Et j'adore ce garçon et son livre marche très bien.
Merci beaucoup Jean-Louis Chifflet. Je rappelle, magasin pittoresque de la littérature française. Je n'ai pas prononcé le mot, je vais le dire, c'est une sorte de miscellanée. Vous avez préféré appeler ça un magasin pittoresque. Merci d'avoir été avec nous, c'est chez Plon, évidemment.
Merci.
Demain,
Philippe Vandel.
Dans Culture Média à 9h, nous serons avec l'humoriste et comédien Issa Doumbia pour la présentation de Show Me Your Voice, c'est-à-dire Montre-moi ta voix. C'est Hélène Manarino qui m'a montré la traduction. Nouvelle émission musicale d'M6. Et puis, le patron du pôle culture de France Télévisions et écrivain, Michel Field, qui nous raconte le Paris qu'il aime tant dans Paris et moi. C'est son nouveau livre. Et moi, jeu de mots. Et moi, émotion. Et moi et lui. C'est son nouveau livre. On parlera également de Culture Box et du Grand Échiquier et tout ce qu'il fait pour la culture sur France Télévisions. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. L'émission s'appelle Ça fait du bien. La nôtre s'appelle Culture Média. Je vous dis à demain. Bonne journée.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.